le magazine des Nations Unies.
Bonjour et bon dimanche chez vous. Voici les principaux titres de ce magazine. Objectif de développement durable ODD, un concours de création et d'innovation dans le domaine d'application numérique ouvert aux jeunes et adolescents des deux sexes de la RD Congo. Liée à la santé, cette compétition est organisée par le ministère des tutelles en partenariat avec des agences des Nations Unies parmi lesquelles l'ONU SIDA et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. Nous sommes le 20 mars aujourd'hui, la date est consacrée à la francophonie, donc c'est la journée de la langue française. Le français est l'une des 6 langues adoptées aux Nations Unies et compte à ce jour un nombre de locuteurs estimé à 300 millions dans le monde. Cette année, la journée est célébrée sous le thème « La francophonie d'avenir ». Enfin, il est indispensable de briser le cycle des violations des droits de l'homme commises et des conflits des communautés souvent causés par l'exploitation et la dispute autour des ressources naturelles et la terre. Déclaration de M. Bakre Ouali Ndiaye, expert international des droits de l'homme pour la RDC, à l'issue d'une mission officielle effectuée du 1er au 15 mars dernier au pays. Une mission qu'il a conduite avec sa délégation, notamment à Kalemie et à Bunia. Dans cette édition, M. Bakre Ouali Ndiaye expliquera dans un entretien l'objectif de ce voyage. C'est donc là la charpente de cette édition, le développement dans quelques instants.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour. Une compétition de création et d'innovation est ouverte aux jeunes et adolescents des deux sexes de la RDC dans le domaine d'application numérique liée à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD dans le secteur de la santé. Plusieurs programmes nationaux du ministère de la Santé et des agences onusiennes sont impliqués dans l'organisation de ce concours. D'autres précisions avec Jeff Opela.
Pour participer à ce concours, il faut être de nationalité congolaise, être âgé de 10 à 24 ans, avoir une proposition de l'application électronique avec description de l'idée pour la nouvelle application ou l'application existante, c'est-à-dire accessible via un lien internet. Envoyez sa lettre de motivation, définir pour quelles raisons avez-vous décidé d'appliquer à ces concours. Il s'agit des programmes PNSA, PNMLS et PNLS avec la collaboration des associations des jeunes et l'appui des partenaires techniques et financiers dont l'ambassade du Canada et les agences du système des Nations Unies, ONU SIDA, UNICEF, UNESCO, OMS et UNFPA. Ces concours veulent la participation des expressions des talents en matière de développement des applications numériques offrant des solutions aux questions liées aux objectifs de développement durable. Ces applications porteuses des matières et sujets d'intérêt particulier pour les jeunes et adolescents seront retenues par un jury ad hoc et seront intégrées dans les plateformes numériques sur le VIH-SIDA et la santé sexuelle et reproductive, appelée Info VIH, mise au point avec le leadership du PNSA. Notez que l'idée de ce concours est d'encourager le jeune et adolescent de contribuer dans les initiatives qui ont un impact positif et mesurable sur l'atteinte des ODD, c'est-à-dire des objectifs du développement durable, et de fournir leurs efforts pour répondre aux problématiques qui le touchent, plus particulièrement le VIH-SIDA, la santé sexuelle et reproductive et leurs problèmes d'épanouissement général.
La francophonie d'avenir, c'est sous ce thème que la communauté internationale célèbre cette année la journée de la langue française, une journée célébrée le 20 mars. Les journées des langues aux Nations Unies ont été introduites en 2010. Question pour cette organisation de mettre en avant le multilinguisme et la diversité culturelle. D'autres détails sur cette option de l'ONU et sur la journée de la francophonie avec Sandra Sifa.
Chaque année, l'ONU célèbre 6 journées de la langue consacrées à ces 6 langues officielles. L'arabe, le chinois, l'anglais, le français, le russe et l'espagnol. L'objectif est de sensibiliser la communauté internationale à l'histoire, à la culture et à l'utilisation de chacune de ces langues. Pour le français, la date du 20 mars a été choisie symboliquement en référence au 20 mars 1970, date de la création de l'Agence de la coopération culturelle et technique, ACCT, devenue plus tard l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Les Nations unies coopèrent régulièrement avec l'OIF et ses États membres dans l'esprit des dispositions adoptées périodiquement par l'Assemblée générale. Cette année 2022, l'OIF a souhaité inscrire les célébrations de la Journée internationale de la francophonie sous le thème « La francophonie de l'avenir ». Cinquième langue la plus parlée après le chinois, l'anglais, l'espagnol et l'arabe, le français est la langue officielle dans 32 États et gouvernements et dans la plupart des organisations internationales.
Autre nouvelle, rendons-nous à Sangué dans la plaine de la Ruzizi au sud Kivu, où une cinquantaine d'acteurs locaux ont été sensibilisés cette semaine sur les mandats respectifs du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme ainsi que des sections des affaires civiles, de protection de l'enfance et de l'information publique de la MONUSCO. La salle Vodacom de Sangué a servi de cadre à cette campagne dans laquelle les points focaux et les acteurs de la sécurité des villages côtiers et des zones de moyens plateaux ont été impliqués. Objectif, sensibiliser ces acteurs à redoubler de vigilance. Fiston Ngoma.
Ces acteurs locaux sont venus de Ndunda, Luberizi, Mutaro, Les Sangues, Mubere et Kigoma, des villages où les populations civiles ont plusieurs fois alerté des cas d'insécurité entretenus par des groupes armés locaux et étrangers. Les participants ont dressé le tableau de la situation sécuritaire dans leurs milieux respectifs. À Sangue, par exemple, des hommes armés identifiés aux rebelles burundais ont traversé en janvier dernier, se dirigeant vers les villages des groupements de Kigoma. Leur présence dans la région des moyens plateaux a occasionné un déplacement massif des populations vers Sangue. Certains parmi ces personnes déplacées sont en conflit avec leur famille d'accueil. Madame Nira Rwaka Naomi a soulevé la présence des groupes armés Maïmaï à Mutaroule vers Tengetenge et Kahanda. Ces miliciens volent le bétail, difficile pour les femmes d'accéder à leurs champs dans cette zone où la pénurie des denrées alimentaires est grandissante. À Ndunda, dans la basse plaine, des cas de violences sexuelles basées sur le genre sont légion. Madame Béatrice Zabiou signale la présence des ressortissants burundais qui exercent des activités entre les deux pays, loin des contrôles des services frontaliers. L'assistant de l'administration du territoire d'Ouvira, Prosper Kayamba Bonheur, a réitéré l'appel à faire confiance à l'armée régulière et aux autorités civiles en place pour barrer la route à cette insécurité. D'Ouvira, Fiston Mamayaba, la radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Je l'ai annoncé dans le sommaire, une délégation d'experts internationaux a effectué du 1er au 15 mars 2022 une visite officielle en RD Congo dans le cadre du mécanisme de la mise en marche de la justice transitionnelle. Monsieur Bakr Walindiaï, chef de la délégation, a tiré des leçons à la fin de la mission, notamment la nécessité de briser le cycle des violations des droits de l'homme commises et des conflits communautaires souvent causés, selon lui, par l'exploitation et les disputes autour des ressources naturelles. Monsieur Bakr Walindiaï a répondu à nos questions. Suivez. Monsieur Bakr Walindiaï, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez en mission de travail ici en RDC. C'est déjà la fin de cette mission. Quel en était l'objectif?
D'abord, je voudrais remercier Radio Okapi de nous donner une occasion de dialoguer avec ses auditeurs, de faire comprendre la mission que nous amène ici en République démocratique du Congo et aussi de pouvoir en quelque sorte partager un certain nombre d'informations et de préoccupations. Nous sommes venus ici dans le cadre du mandat qui a été élargi au mois d'octobre dernier à l'ensemble de la République démocratique du Congo, qui a été donné par le Conseil des droits de l'homme pour nous permettre d'assister la République démocratique du Congo et d'évaluer ses efforts dans deux directions, la lutte contre l'impunité et la mise en place d'une justice de transition. Nous avions commencé par le Kasaï, mais maintenant que c'est élargi à l'ensemble du Congo, nous avons commencé cette visite en nous rendant presque directement le 1er mars à Kalemi pour assister le 2 mars au lancement des consultations nationales qui vont être entreprises dans l'ensemble du territoire congolais pour que la population soit consultée sur quelle direction prendre sur la route de la réconciliation et de la réparation du tort des victimes et aussi de la poursuite des crimes abominables qui ont pu être commis. Donc nous avons commencé par Kalemie. Ensuite, nous nous sommes rendus à Bounia, dans l'Ituri, pour voir un peu comment dans un territoire, dans une province, en état de siège, ces mêmes préoccupations pouvaient être tenues en compte. Est-ce que c'était l'urgence? Est-ce que c'était possible? Et si c'est possible, comment? Voilà en gros ce qui s'est passé la première semaine de notre mission. Et la deuxième semaine, nous l'avons consacrée à rencontrer des autorités, aussi bien gouvernementales, non gouvernementales que diplomatiques, ici à Kinshasa.
Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces rencontres avec ces différentes personnalités au niveau du gouvernement, au niveau de la société civile et même au niveau des agences du système des Nations Unies? C'était ça votre agenda?
Tout à fait, et aussi des personnalités religieuses, des ONG. Et ce que nous avons pu retenir, c'est qu'il est absolument indispensable de briser le cercle des violations des droits de l'homme qui se passent et des conflits entre les communautés, et souvent issus de l'exploitation des richesses naturelles ou des compétitions sur ces mêmes ressources, que ce soit la terre ou des minerais. Nous avons vu aussi que, quelle que soit la situation, il y avait un fort désir de faire des efforts sur l'un ou l'autre aspect de la justice de transition, puisque la justice de transition, c'est aussi se tolérer, se comprendre, dialoguer, réinsérer les combattants, c'est aussi prendre en compte le sort des victimes. Or, s'il y a des vieux conflits qui sont latents, qui sont réels, qui sont brûlants, cela n'empêche pas que des efforts sont possibles pour s'occuper de l'urgence, et notamment des victimes et de l'effort de réconciliation.
Revenons un peu à la première semaine de votre visite. Vous étiez à Kalemie, vous étiez en Ituri, à Bounia notamment. Qu'est-ce que vous avez pu retenir d'essentiel, des messages que vos différents interlocuteurs ont pu faire passer?
Ce qu'il y a à Kalemie, nous nous sommes rendus compte évidemment que le conflit entre Bantou et Twa notamment était un conflit extrêmement difficile, parce que profond et parfois remontant à des préjugés de notre millénaire, je ne parle même pas de notre siècle. Et que donc ce n'est pas facile de l'éradiquer en deux jours, mais la volonté d'y parvenir est absolument importante et toute marche commence par un premier pas. Et c'est l'occasion de saluer la décision du ministre des Droits humains qui, après avoir écouté les communautés, a décidé d'inclure dans la délégation congolaise qui va se rendre le 28 mars au dialogue organisé par le Conseil des droits de l'homme sur la République démocratique du Congo. Il a donc décidé d'inclure une jeune étudiante, Toa, de nom de Anastasie Ngoy, si j'ai bonne mémoire, et qui va donc être membre de cette délégation pour, en quelque sorte, manifester le désir d'inclusion du gouvernement. Si on en vient à l'Ituri, nous avons ce même conflit entre essentiellement les communautés Hema et Lendu, mais ce ne sont pas les seules communautés. Mais d'autres nous diront que les autres communautés aussi ne sont pas en conflit. Donc, quelque part, là aussi, il y a une forte tension, si l'on veut, chacun étant à la fois victime et auteur, ne retient en fait que la victimisation et pas sa qualité d'auteur. Et il faudrait donc trouver les moyens d'engager un dialogue entre ces communautés. Et souvent, nous avons pensé que les confessions religieuses pouvaient jouer un rôle dans cela, et que ce soit des différentes églises chrétiennes, comme les autres religions, comme l'islam ou les religions traditionnelles. Donc, nous avons vu aussi que dans toutes ces communautés, le fait de parler aux leaders et de convaincre les leaders était clé pour établir la confiance entre les communautés et acquérir la confiance des communautés.
Oui, vous avez écouté vos interlocuteurs, mais vous aussi, vous étiez porteur de messages. Quel a été le message des Nations Unies?
Le message des Nations Unies, c'est de dire tout simplement, prendre en compte la volonté de la République démocratique du Congo d'avancer résolument dans la direction de la justice de transition, d'avancer résolument vers l'état de droit et de considérer que les difficultés que ce pays connaît depuis très longtemps et qui ne se limitent pas aux frontières du pays, mais qui s'étend aussi dans des zones transfrontalières et dans des pays frontaliers bien connus, que ces difficultés-là ne sont pas irréversibles et qu'il faut commencer à les entreprendre. Et notre rôle, c'est d'assister le gouvernement, d'évaluer les efforts du gouvernement et de rendre compte de ces efforts et en faisant nos propres recommandations. Donc, nous avons répété à tout le monde que, en ce qui concerne la justice de transition, il n'y a pas un modèle qui est déjà là. Nous savons seulement que le gouvernement a l'intention de coordonner le maximum au niveau national, mais de d'abord privilégier la façon locale de régler les conflits locaux. Parce que c'est en allant des réalités vers la théorie que ça peut marcher et pas l'inverse.
Alors, M. Bakre Wali Ndiaye, la suite?
Bon, je tiens aussi à souligner que dans tout cela, il y a la communauté internationale, il y a certaines ambassades que nous avons vues qui ont fait des efforts particuliers pour aider dans ce sens-là et financer les opérations. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, par exemple, est en train de financer, je crois grâce à une subvention belge, les consultations nationales dans la mesure qu'il faut former ceux qui doivent s'adresser aux communautés. On ne se lève pas un beau matin pour tendre un micro à quelqu'un. Donc, il y a cette participation de la communauté internationale est importante. C'est en cela que je peux dire aussi que ce qui nous préoccupe, c'est de voir que la MONUSCO est en train de dérouler le tapis. Et là aussi, on se pose des questions. Est-ce que c'est le moment? En tout cas, si ça doit se faire, je pense aussi que cela doit être accompagné par un effort accru de bâtir les capacités nationales. Et dans ce sens-là, la perspective que nous a donnée la ministre d'État chargée de la justice de recruter prochainement un grand nombre de magistrats, civils et militaires, nous réconforte dans le fait que, bon, il n'y a pas de fatalité au Congo. Il y a seulement des efforts à faire. Et nous continuons à inviter les autorités comme la population à faire ces efforts vers la paix et l'état de droit.
Et la prochaine visite?
La prochaine visite, a priori, nous avons encore deux visites à faire. Et c'est souvent des visites de deux semaines compte tenu de l'étendue du pays et du besoin que nous avons de nous exposer, de nous confronter à différentes réalités. Nous l'avons prévu en principe vers la fin du mois de mai, s'il plaît à Dieu.
Monsieur Bakre Wali Ndiaye, merci.
Merci beaucoup et merci à Radio Okapi.
Ouvrons cette page de nouvelles par la troisième édition de la Foire des femmes des médias organisée du 9 au 11 mars à Kinshasa. Radio Okapi a pris une part active à cette activité au cours de laquelle la radio onusienne a diffusé en direct plusieurs émissions, notamment l'émission Okapi Service. La Foire des femmes des médias est une initiative de l'Association congolaise des femmes de la presse écrite et de l'Union congolaise des femmes des médias. De Kinshasa, rendons-nous en Ituri. Mercredi 9 mars dernier, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, la MONUSCO a mené une séance de formation de fabrication artisanale de savon au profit d'une cinquantaine de femmes détenues de la prison centrale de Bounia. L'objectif de cette formation était de préparer l'insertion sociale de ces femmes dans la perspective de leur libération. Ces femmes détenues ont également été sensibilisées à la lutte contre les violences sexuelles. Enfin, à Goma, au Nord-Kivu, la chef de bureau local de la MONUSCO, Laila Bouril, a remis le 9 mars dernier un incinérateur médical à l'antenne provinciale de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
L'invité de ce magazine, c'est Francis Alain Béret, chef de bureau PAM, Programme alimentaire mondial Bukavu pour le Sud Kivu et le Maniema. Avant la fin du week-end, le PAM, l'UNICEF et la FAO, en partenariat avec le ministère provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, ont procédé au lancement du programme des cantines scolaires dans la cité de Sangué. Francis Alain Béret explique l'approche de ce programme en répondant aux questions de Fiston Ngoma.
Francis Béret, bonjour. Vous êtes chef de bureau du programme alimentaire mondial basé à Bukavu pour le Sud Kivu et le Maniema. 19 000 écoliers de 53 écoles primaires de la zone de santé de la Ruzizi sont touchés directement par ce projet de cantine scolaire. Comment fonctionne ce programme d'alimentation dans la Ruzizi? Est-ce que vous pouvez nous donner une brève explication de ce volet éducation à la nutrition dans les écoles?
Et comme vous le savez, le PAM est une agence du système des Nations Unies. Et nous avons pour mandat de lutter contre la faim et la malnutrition dans le monde. Et notre principe est de sauver des vies et de changer des vies. Quand on prend ce cadre-là, vous comprenez que si nous voulons changer des vies, il va falloir, dans le contexte africain, dans le contexte de la RDC, procéder à l'éducation. Nous avons constaté que la femme en milieu rural est généralement une personne travailleuse avec beaucoup d'énergie, mais qui n'a pas les connaissances et la capacité nécessaires pour pouvoir être un élément dans le moteur du développement des zones. Et pour l'amener à ce niveau, il y a la nécessité qu'elle soit formée, éduquée, alphabétisée. Et c'est pour ça que dans le cadre de ce projet de la résilience financé par les Allemands, nous avons initié cette activité d'alphabétisation pour pouvoir accompagner les femmes productrices à pouvoir apprendre des connaissances, de nouvelles techniques agricoles et être capables de gérer de petites affaires.
Alors, au niveau des cantines scolaires, ça fonctionne comment? Est-ce que vous achetez de la nourriture pour donner aux enfants ou bien vous achetez la production locale pour nourrir les enfants dans les écoles?
De manière générale, nous ne procédons pas les deux. Il y a des écoles du type classique du PAM où nous achetons sur le marché local ou sur le marché international pour alimenter en fait les élèves. Mais de plus en plus, compte tenu du fait que nous appuyons aussi les petits producteurs à augmenter leur capacité de produire, le surplus créé crée une opportunité d'achat par le PAM pour alimenter en fait, les écoles où nous mettons en place l'alimentation en fait, scolaire. Et nous les encourageons aussi à produire en qualité et à diversifier pour pouvoir avoir des aliments et beaucoup plus riches que les enfants pourront manger au niveau des écoles.
Alors, à cette étape ici, il n'y a pas encore de grandes productions agricoles dans la plaine de la Rosizi à cause de la sécheresse. Comment vous comptez vous comporter pour nourrir les écoliers dans les écoles?
Exact. La production, elle existe déjà, sauf qu'elle n'est pas déjà à l'échelle, c'est-à-dire que ce n'est pas déjà une grande quantité. Mais nous poursuivons les efforts avec la FAO et l'UNICEF pour augmenter les capacités de production et produire plus. Maintenant, qu'est-ce que nous ne faisons dans l'entretemps? Comme vous le savez, nous avons des ressources alimentaires que les pays donateurs nous donnent. Nous mettons à contribution ces ressources alimentaires-là pour faire fonctionner les cantines. Mais ça, c'est une stratégie de transition. Très bientôt, quand la production sera à un certain niveau, au niveau des petits producteurs, le PAM pourra acheter directement au niveau des petits producteurs pour alimenter en fait, les écoles. Le bénéfice dans ça, en fait, il est plusieurs. Il y a le fait que le petit producteur, il voit ses capacités renforcées, il produit pour sa consommation et le surplus est orienté vers le marché. Un des bénéfices est que les élèves qui sont dans ces écoles ne sont que les enfants de ces producteurs. Donc du coup, eux aussi, ils ont à manger dans les écoles avec des produits locaux qui répondent à leurs habitudes en fait, alimentaires. D'accord. Et ça constitue aussi un gain économique parce qu'un enfant qui mange à l'école, ça constitue une charge en moins au niveau en fait, des ménages. Ce n'est pas la première fois que le PAM développe un programme de cantine scolaire à l'est du Congo et précisément au sud Kivu. C'est des programmes qui, en fait, qui existaient avant. Maintenant, ce que nous venons de commencer, c'est une nouvelle formule de cantine scolaire que nous appelons alimentation scolaire basée sur les produits locaux. Et je voudrais bien qu'on comprenne cela parce que, à terme, ce ne serait plus des produits achetés ou bien importés, ça serait des produits produits localement par les comités des parents d'élèves et qui seront achetés pour pouvoir alimenter la cantine scolaire. Et pour le plus long terme, le PAM et ses partenaires comptent se désengager et faire en sorte que cette production et le lien qu'il y a avec l'école soient développés et soient soutenus par la communauté même et voire avec une implication des services étatiques.
Merci beaucoup.
Merci.
Restons toujours avec ce programme de cantine scolaire lancé à Sangé, un programme qui sert chaque jour un repas chaud à 19 000 écoliers de 54 écoles primaires de la contrée, l'objectif étant de renforcer la résilience socio-économique des petits exploitants agricoles et des populations vulnérables dans cette région de la plaine de la Rosizi. Reportage toujours avec Fiston Ngoma.
Godelif Boulosé, 6e année primaire. Nous sommes à l'école primaire Moussaigne de Sangé. Il y a 2 ans, cette jeune fille, comme la majorité des écoliers, avait brillé dans les absences, les retards et d'autres poussaient à l'abandon des classes. La pauvreté et la famine sont les principales causes de l'école buissonnière dans la Rosizi. La première phase du projet des cantines scolaires a changé la tendance.
Ce projet a un impact positif aux parents et à nous-mêmes, car notre fréquentation à l'école est régulière. Et à manger à l'école, nous suivons les cours avec assiduité et ceci nous conduit à la réussite et dans le cadre économique, les coûts de dépenses journalières sont également allégés dans nos familles.
Rosizi a été frappée par la sécheresse. des cas de malnutrition étaient observés sur les enfants. D'après les sous-prophètes Ouvira 2, Biamasu Kalembire, 12% d'abandon des classes ont été enregistrés les deux dernières années dans les écoles primaires de la région. Grâce aux cantines scolaires, les effectifs sont récupérés et stabilisés. La FAO organise les jardins scolaires où l'on peut trouver des amarantes et aubergines pour varier les régimes alimentaires. Et l'UNICEF fait l'assainissement dans ces écoles. D'Ouvira Fiston Mamayabala, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Quel message a adressé aux femmes pendant ce mois des femmes? La question a été posée à Madame Maclid Miigo, spécialiste des droits de l'homme au Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme au Sud Kivu, qui venait d'obtenir le 3 février dernier le prix Femmes Avenir, édition 2022, un prix décerné en Espagne pour récompenser les femmes engagées dans la lutte de la promotion des droits de la femme. Suivez sa réponse.
Pour le mois de mars, je pense que le message, c'est les femmes sont fortes, les femmes sont courageuses au-delà même de ce qu'on peut espérer, mais beaucoup plus un appel aux hommes pour s'adjoindre à nous, pour nous accompagner, à mettre en œuvre toutes les actions qui visent la promotion des droits de femmes et la protection des droits de femmes. Parce que sans l'engagement de l'homme, on ne pourrait pas y arriver. Mais avec les hommes qui prônent la masculinité positive, cela va nous aider à pouvoir cheminer ensemble pour effectivement promouvoir et protéger le droit de la femme. Et en ce mois où le thème a un lien avec la protection de l'environnement, on pense que les femmes sont effectivement des actrices primordiales dans cette lutte pour la protection de l'environnement et surtout pour la protection des droits de l'homme et des droits de femmes en général, et surtout des droits des jeunes filles qui sont une élite mondiale qu'on doit aussi accompagner pour devenir des leaders communautaires, des leaders de la communauté congolaise.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques dates et journées à noter dans vos agendas pour la semaine qui commence. 21 mars, journée internationale des forêts. 22 mars, journée mondiale de l'eau. 24 mars, journée mondiale de la lutte contre la tuberculose. Et enfin, 25 mars, journée internationale des commémorations des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Dès la fin de cette émission, vous pourrez la retrouver sur le site www.radiocapi.net. Radio Capi en un mot, merci de votre attention et merci également à Dieudonné Nyangasa qui en a assuré la coordination technique. Je suis Honoré Missenga Kalala, j'ai produit, coordonné et présenté ce magazine avec l'appui de Jeff Opela. Restez toujours branchés sur la radio de la paix pour la suite de nos programmes. À dimanche prochain, ciao.